La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, le philosophe dans la cité, comment Maritain répond-il à son temps ? Cet ouvrage est publié donc après la guerre, après la période d'ambassade à Rome, et est constitué de plusieurs articles, de plusieurs conférences qui s'échelonnent sur plusieurs années, y compris des textes d'avant la guerre. Je vous ai proposé, dans une autre émission précédente, d'étudier donc la doctrine empiriste et voir comment Maritain l'analyse. Et il aboutissait sur la nécessité d'une croyance collective aux valeurs morales. Nécessité collective, dont je vous dis deux mots, avant de passer sur un autre article qui constitue cet ouvrage, Le philosophe dans la cité. Donc, qu'entend-il, que Maritain entend-il par croyance collective aux valeurs morales ? Tout simplement, la certitude collective des valeurs morales dont vit une communauté d'hommes libres et une foi intellectuelle collective en la vérité objective de ces valeurs. Voilà, c'est vérité objective de ces valeurs. Il a une conséquence pratique hein, qu'il énonce tout de suite. Il faut qu'il croie en la liberté. Si nous voulons que les hommes souffrent et luttent pour la liberté, il faut que les hommes espèrent en la liberté. Il n'y a pas d'espérance où il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de ligne directrice pour une civilisation quand il n'y a pas de ligne directrice obtenue non au moyen d'un shibboleth totalitaire, mais par le moyen des libres œuvres de l'esprit, relatives aux certitudes fondamentales et aux idéales qui sont l'âme vivifiante et unifiante de cette civilisation. Donc ici, regardons ce que Maritain propose à partir du chapitre suivant qu'il a intitulé « Tolérance et vérité ». C'est donc le chapitre 6 du philosophe dans la cité, même si 6 années séparent ce texte du précédent. Le précédent date de 1951, celui-ci de 1957, mais on est dans le même ordre d'idées. Alors, ce paragraphe, ce chapitre est constitué de plusieurs parties, mais je vais m'arrêter essentiellement à la première partie intitulée « Absolutisme et relativisme » parce que la réponse de Maritain à des questions de son temps, juste après la guerre, je trouve qu'elle correspond à une réponse qui peut être aussi donnée à notre temps. Alors, Maritain a toujours beaucoup d'humour. Il cite Madame Roland montant à l'échafaud, vous connaissez la tirade, « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom !» Maritain transpose, « Ô vérité, pourrait-on dire, combien souvent l'aveugle violence et l'oppression ont-elles été déchaînées en ton nom au cours de l'histoire ?» Le zèle pour la vérité, écrit le père Victor White, a trop souvent servi de manteau aux plus odieuses passions humaines. Confère Voltaire. L'intolérance pour Voltaire vient des religieux. Donc la religion chrétienne par son mouvement de prosélytisme, par le fait qu'elle estime avoir raison parce qu'elle est la seule religion, eh bien elle va générer les guerres de religion, l'intolérance, la barbarie, les guerres et les meurtres, etc. Bref, on fait tout porter au christianisme. C'est le fonds de commerce de tout le XVIIIe siècle. Donc la conséquence, pensent certains, c'est que pour délivrer l'existence humaine de ses passions mauvaises et faire vivre les hommes en paix et dans une confortable quiétude, le meilleur moyen est de se débarrasser de tout zèle pour la vérité et de tout attachement à la vérité. Ben voilà, tolérance, relativisme, c'est la solution. C'est ainsi que la violence et la cruauté des guerres de religion sont ordinairement suivies d'une période de scepticisme, comme au temps de Montaigne et de Charon. Maritain commente « Ce n'est là que le balancement du pendule qui se meut d'un extrême à l'autre. Il peut arriver au surplus que le scepticisme tienne ceux qui ne sont pas sceptiques pour des êtres barbares, enfantins ou sous-humains, et il peut arriver qu'il les traite aussi mal que le zélote traite l'incroyant. Alors le scepticisme apparaît aussi comme aussi intolérant que le fanatisme. Il devient le fanatisme du doute. C'est un signe que le scepticisme n'est pas la réponse. Et c'est vrai, souvent, moi j'ai ce slogan intérieur, le chrétien paraît naïf parce qu'il croit et parce qu'il n'est pas sceptique, donc chrétien égale, entre guillemets, excusez-moi l'expression, crétin, et du coup, il y a un fanatisme du scepticisme. Donc Maritain renvoie dos à dos les deux attitudes. Comment trouver un intermédiaire, un juste milieu? Il propose, la réponse est l'humilité, unie à la foi dans la vérité. Le problème de la vérité et de la fraternité humaine est important pour les sociétés démocratiques. Il me paraît particulièrement important pour l'Amérique dans laquelle il vit en 1957, où des hommes et des femmes venant d'une grande diversité, soit de groupes nationaux, soit de croyances religieuses et philosophiques, ont à vivre ensemble. Si chacun d'eux entreprenait d'imposer ses propres convictions et la vérité en laquelle il croit à tous ses concitoyens, la vie commune ne deviendrait-elle pas impossible? C'est l'évidence même. Soit. Mais il est aisé, trop aisé, de faire un pas de plus et de demander si chacun tient fermement à ses propres convictions, est-ce que chacun n'entreprendra pas d'imposer ses propres convictions à tous les autres? Forcément, si on pense que c'est la vérité et que c'est bien pour l'autre, ben on essaie de le lui proposer et puis s'il résiste, peut-être de lui imposer. De telle sorte que finalement, la vie commune deviendra impossible si un citoyen quelconque adhère fermement à ses propres convictions et croit à une vérité donnée. Ainsi, il n'est pas rare de rencontrer des gens qui pensent que ne croire à aucune vérité ou n'adhérer fermement à aucune assertion, comme inébranlablement vraie en elle-même, est une condition première exigée des citoyens en démocratie afin d'être tolérants les uns envers les autres et de vivre en paix les uns avec les autres. Puis-je dire que ces gens sont en fait les plus intolérants de tous, car si par hasard ils croyaient à quelque chose comme à une vérité inébranlable, ils se sentiraient contraints du même coup d'imposer à leurs concitoyens leurs propres croyances par la force et la contrainte. Problème. Donc, Maritain va s'arrêter à une position, celle de Hans Kelsen, qui justifie le relativisme de la démocratie. Et il va l'analyser dans ses ressorts, et je vous propose de le suivre, parce que c'est des questions brûlantes, on le voit aujourd'hui. Quelle est la position de Hans Kelsen? Kelsen part du dialogue entre Jésus et Pilate en Jean chapitre 18, où Jésus dit « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité », et où Pilate répond « Qu'est-ce que la vérité ?» et livre alors Jésus à la fureur de la foule. C'est parce que Pilate ne savait pas ce qu'est la vérité, conclut Kelsen, qu'il en a appelé au peuple et lui a demandé de décider. Et ainsi, dans une société démocratique, c'est au peuple qu'il revient de décider et la tolérance mutuelle règne parce que personne ne sait ce qu'est la vérité. Maritain commente. La vérité dont parlait Kelsen était la vérité religieuse et métaphysique, que l'on appelle vérité absolue, comme si chaque vérité, pour autant qu'elle est vraie, n'était pas absolue dans sa propre sphère. Le nerf de l'argumentation de Kelsen est « Quiconque connaît ou prétend connaître la vérité absolue ou la justice absolue, c'est-à-dire la vérité ou la justice simplement, ne peut pas être un démocrate car il ne saurait admettre la possibilité d'une vue autre que la sienne propre, la vraie vue. Le métaphysicien et le croyant sont tenus d'imposer leur vérité éternelle aux autres gens, aux ignorants et aux autres personnes à l'esprit obscurci, à eux d'entreprendre la sainte croisade de celui qui connaît contre celui qui ne connaît pas ou n'a point de part à la grâce de Dieu. Ce n'est que lorsque nous sommes conscients de notre ignorance de ce qu'est le bien que nous pouvons nous en remettre au peuple de décider. Impossible de résumer plus exactement un ensemble de postulats plus barbares et plus erronés, conclut Maritain. S'il était vrai que quiconque connaît ou prétend connaître la vérité ou la justice ne peut admettre la possibilité d'une vue différente de la sienne et est tenu d'imposer sa vraie vue aux autres par la violence, alors l'animal raisonnable serait la plus dangereuse de toutes les bêtes. En réalité, c'est par des moyens rationnels, c'est-à-dire par la persuasion, non par la coercition, que l'animal raisonnable est tenu, en vertu de sa nature même, d'essayer d'amener ses compagnons à participer à ce qu'il connaît ou prétend connaître comme vrai ou juste. Et le métaphysicien, parce qu'il a confiance en la raison humaine, et le croyant, parce qu'il a confiance en la grâce divine, et sait qu'une foi contrainte est une hypocrisie haïssable à Dieu et à l'homme. Donc le philosophe métaphysicien autant que le croyant n'ont pas recours à la guerre sainte pour rendre leur vérité éternelle accessible aux autres gens. Ils en appellent au contraire à la liberté intérieure des autres gens en leur offrant soit leur démonstration, soit le témoignage de leur amour. Ou bien la démonstration avec sa cohérence, ou bien le témoignage. Et nous ne demandons pas au peuple de décider parce que nous serions conscients de notre ignorance de ce qu'est le bien, mais parce que nous connaissons cette vérité-ci et ce bien-ci, à savoir que le peuple a droit à se régir lui-même. Voilà comment Maritain fait appel à la liberté de chacun en ayant foi dans le témoignage et dans la ratio, c'est-à-dire dans la raison. Weinen, klagen, sorgen, cette magnifique cantate 12 de Jean-Sébastien Bach qui fera une magnifique pièce de Franz Liszt, hein, reprenant ce même thème, nous permet d'illustrer ce dilemme, hein, cette problématique forte entre vérité et démocratie. Faut-il une absence de vérité sous prétexte d'une tolérance? Faut-il une violence pour convaincre? C'est une question insoluble dans l'histoire et qui est liée pour Jacques Maritain finalement au péché originel. Voici comment Maritain explique le fanatisme qui n'est pas du tout le chemin du chrétien. C'est un non-sens de regarder le fanatisme comme un fruit de la religion. Le fanatisme est une tendance naturelle enraciné dans notre égoïsme foncier et notre volonté de puissance. Oui, pleurons, weinen, klagen, sorgen. Il se saisit de tout noble sentiment pour vivre de lui. Le seul remède contre le fanatisme religieux est la lumière de l'Évangile et le progrès de la conscience religieuse dans la foi elle-même et dans cet amour fraternel qui est le fruit de l'union de l'âme humaine avec Dieu. Car alors, l'homme expérimente la transcendance sacrée de la vérité et de Dieu. Mieux, il saisit la vérité par la science, la philosophie ou la foi, plus il sent quelle immensité reste à saisir à l'intérieur de cette vérité même. Plus il connaît Dieu par la raison ou par la foi, plus il comprend que nos concepts l'atteignent par analogie, mais sans le circonscrire, et que ses pensées ne sont pas comme nos pensées, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, Romains 12, 34, plus la foi devient forte et profonde, plus l'homme s'agenouille non devant sa propre ignorance de la vérité, mais devant l'inscrutable mystère de la vérité divine et devant les voies cachées par lesquelles Dieu va à la rencontre de ceux qui le cherchent. En résumé, le problème réel concerne le sujet humain, doté comme il est de ses droits par rapport aux autres hommes et affligé comme il est par les inclinations vicieuses qui dérivent de sa volonté de puissance. Magnifique démonstration qui vient répondre à toutes les philosophies des Lumières qui sont fondées vraiment sur cette idée que le fanatisme, la guerre sont issus du fanatisme religieux et surtout du fanatisme de la religion catholique. Alors, que faut-il penser de Kelsen ? Maritain va revenir sur Kelsen en disant que ceux qui font du relativisme, donc les théoriciens du relativisme, de l'ignorance, du doute, comme condition nécessaire de la tolérance mutuelle, pour Maritain, ça vient du fait qu'ils transfèrent du sujet à l'objet les sentiments qu'ils éprouvent à bon droit à l'égard du sujet. Ils commencent, comme on le voit à propos de Kelsen, avec les suprêmes vérités, soit de la métaphysique, soit de la foi. Mais Maritain fait remarquer que la science aussi a affaire à la vérité, bien que en science, la découverte d'une vérité nouvelle supplante le plus souvent une théorie antérieure, jusque-là considérée comme vraie. N'oublions pas que c'est jusqu'à preuve du contraire, la théorie de la falsificabilité de Popper, qu'une science est vraie. Le relativisme de la relativité du mouvement de Galilée, avec l'observateur qui est sur le bord du quai et le bateau qui passe, et puis l'observateur qui est dans le bateau, et puis la goutte qui tombe depuis un récipient d'eau situé dans la cabine du bateau, quelle est la trajectoire de la goutte, comment est-elle vue par l'observateur sur le bord du quai. Bref, cette relativité magnifiquement décrite par ce bateau qui va de Venise à Aleph. Eh bien, cette relativité deviendra relativité restreinte en 1905 et puis relativité générale en 1915 chez Einstein. Donc, il y a une prolongation, mais en même temps, une annulation. Voilà, de même que la mécanique de Newton avec la gravitation va être une révolution, etc., etc. On pourrait refaire toute l'histoire des sciences. Donc, Maritain s'appuie sur quelque chose de réel dans l'histoire et peut conclure que va-t-il arriver ? Si le fanatisme des hommes s'empare de ce qui déclare être vérité scientifique à un moment donné, il suffit de considérer la manière dont l'État staliniste imposait aux savants sa propre vérité physique, biologique, linguistique et économique. Allons-nous dès lors conclure que, pour échapper à l'oppression ou au dirigisme de la science étatiste, le seul moyen est de renoncer à la science et à la vérité scientifique et de prendre refuge dans l'ignorance ? C'est la vérité, non l'ignorance, qui nous rend humbles et nous donne le sens de ce qui reste inconnu dans notre connaissance même. En un sens seulement, il y a de la sagesse à faire appel à notre ignorance, à savoir à l'ignorance de ceux qui savent, non à l'ignorance de ceux qui sont dans la nuit. Qu'il soit question de science, de métaphysique ou de religion, l'homme qui dit « qu'est-ce que la vérité ?» comme Pilate n'est pas un homme tolérant, mais un traître au genre humain. Il n'y a tolérance réelle et authentique que lorsqu'un homme est fermement et absolument convaincu d'une vérité ou de ce qu'il tient pour une vérité et quand en même temps il reconnaît à ceux qui nient cette vérité le droit d'exister et de le contredire et d'exprimer leur propre pensée, non point parce qu'ils seraient libres à l'égard de la vérité, mais parce qu'ils cherchent la vérité à leur manière et parce qu'ils respectent en eux la nature humaine et la dignité humaine et ses ressources et ses vivants ressorts de l'intelligence et de la conscience qui les rendent en puissance capables d'atteindre eux aussi la vérité qu'ils aiment si un jour ils arrivent à la voir. Splendide distinction entre la vérité de ceux qui savent qu'ils ont encore à découvrir et qui, du fait d'une connaissance, d'une certaine vérité, sont humbles et tolérants, et la vérité de ceux qui promeuvent une ignorance de la nuit radicale au nom de la tolérance. C'est une fausse vérité. Et Maritain a un mot très juste. Maritain dit que Pilate n'est pas un homme tolérant, mais un traître au genre humain. C'est un traître au genre humain en faisant croire qu'il n'y a pas de vérité et qu'on n'a pas à chercher la vérité. Maritain oppose au contraire la douceur éducative, la douceur pédagogique de celui qui sait, qui connaît une vérité, qui laisse du temps au temps pour celui qui a un autre chemin et qui cherche à sa manière. Et on le laisse en le guidant. Il prend pas ce chemin, tant pis. On lui donne le temps qu'il faut. Cela rejoint toute une conception très maritainienne de la vérité cachée. La vérité cachée, pour Maritain, c'est que dans toute philosophie, dans toute recherche humaine, il y a une vérité. Elle est peut-être cachée sous une erreur, sous quelque chose d'incoatif, même sous une forme d'une idéologie raide. Mais ces vérités cachées, au nom de ces vérités cachées, il y a un respect de toute doctrine. C'est ce qui permet à Maritain de conclure donc ce document qui s'appelle « Tolérance et vérité » daté de 1957 et qui fait partie de l'œuvre « Le philosophe dans la cité » sur une grande question « Les philosophes peuvent-ils coopérer ?» Alors j'en ai déjà parlé dans une autre émission. La coopération des philosophies est envisagée par Maritain, mais sous forme de cette grande écoute. Chercher dans l'autre doctrine, un point commun. Un point commun, il y a toujours un dénominateur commun, ne serait-ce que la quête, même dans des philosophies apparemment opposées. Et Maritain va terminer ce chapitre en s'amusant à un jeu de rôle. Il prend le rôle du pragmatiste qui poserait son regard sur la philosophie thomiste avec un regard un petit peu, je veux dire, ironique. Voilà, des dogmatiques finalement. Et puis, vice-versa, le thomiste convaincu, un peu rigide, qui poserait son regard sur le pragmatiste de manière, là aussi, un peu ironique. Eh bien, à partir de ce jeu de rôle, on peut envisager, cependant, une tolérance, c'est-à-dire un point de vue bienveillant, qui peut chercher, derrière toute philosophie, un point commun, une vérité cachée. Donc, quelle est la somme, quel est le résultat de cette démarche? C'est que le mot de tolérance a lui-même changé de sens. La tolérance, ça veut dire finalement porter, tollo, une sorte de fardeau qui est celui d'avancer dans l'obscurité, qui est le lot de l'humanité, et d'avancer pas à pas dans des vérités et qui oblige le philosophe à envisager un compagnonnage avec son frère qui n'est pas du tout du même bord. Donc, en conclusion, je vais revenir sur une phrase de Maritain. Un grand philosophe dans l'erreur est comme un phare sur les récifs. Il dit aux marins « Naviguez loin de moi ». Il permet aux hommes, du moins à ceux qui n'ont pas été séduits par l'erreur, d'identifier les erreurs dont ils souffrent, d'en devenir clairement conscient et de lutter contre elles. Et c'est là un besoin essentiel de la société, pour autant qu'elle n'est pas une pure société animale, mais une société de personnes douées d'intelligence et de liberté.